ces temps où le patriotisme écologique consiste à changer sa voiture qui va bien pour acheter à la place un SUV hybride électrique, à reprendre des avions moins polluants demain le plus vite possible, à ne pas gêner la chasse et l'épandage de pesticides, nous on dit stop, zen. On fait un créneau avec son vélo et on prend de la hauteur avec des chaussures solides et notre monsieur montagne. Bonjour à tous. Oui, un samedi nature, attitude et altitude. Christian Couloumi, à l'origine, c'est un petit gars de Montrouge qui a découvert la montagne à 12 ans, en camp de vacances, en colo. Début d'une vocation, d'un mariage entre la montagne et lui, pisteur, moniteur national de ski, garde du parc des Écrins, chef de secteur durant 41 ans. Il vit dans la très jolie commune d'Embrun, dans les Hautes-Alpes, dans ce bleu 05. Il n'a eu de cesse d'éduquer en racontant cette nature fragile d'altitude. Alors non pas en technicien expert, mais en humain avant tout. Alors trois volets aujourd'hui, trois volets montagne, les vautours habitants du ciel, le glacier blanc marqueur du réchauffement. Et donc on va commencer, je vous le disais, par cette fragilité de la montagne avec un petit manteau d'hiver. Voilà, ce petit filet d'eau vous est offert par Christian Couloumi, par les Hautes-Alpes, par le soleil, par cette montagne que l'on aime raconter. Bonjour Christian.
Bonjour Denis.
Alors vous nous montriez à la radio, bien sûr.
Je vous montrais les odeurs.
Ah, c'est bien.
Vous avez remarqué, ça sent bon, ce sont les trèfles là, qui sont encore pas sortis complètement, mais dont l'odeur se répand.
Ouais.
Et je vous montrais aussi une soldanelle.
Ah,
c'est bien juste après la neige. On est au milieu des plaques de neige.
Ouais. Ah, ouais.
On est entre les deux.
Pourquoi ce milieu est fragile ?
Il est fragile parce qu'il est en équilibre. Cette peau qui recouvre le relief, qui est la montagne au fond, parce que la montagne c'est des bosses, mais sur les bosses il y a des choses, et cette peau-là, elle a une très belle peau. Et c'est cette peau qui est fragile. Et la fragilité, elle vient du fait qu'elle a su s'adapter aux conditions de vent, aux conditions de lumière, aux conditions de température, aux conditions d'hygrométrie. Il fait très très sec en montagne. Donc toutes les fleurs qui sont là, tous les animaux qui sont là, sont en équilibre précaire et sont obligés de faire face à des coups de boutoir des éléments, des aléas, et moi je leur tire mon chapeau. Au-dessus de 2500 mètres d'altitude, je crois, c'est l'altitude à laquelle nous sommes, tout devient plus difficile parce que le rayon de soleil qui passe, comme nous l'avons aujourd'hui, là tout de suite, peut-être dans un quart d'heure, il y a un cumulus qui va le cacher, ce soleil, il va faire froid, il faudra sortir la veste. Et puis ce soir, peut-être que le ciel sera clair encore, comme ça l'est maintenant.
On aura une différence de température incroyable. Hein.
Très importante. Ouais. Donc les écarts, les extrêmes sont là. Elles se touchent, à la fois dans un petit creux de rocher où il fait presque chaud, c'est presque la Provence, là, dans ce petit creux de rocher. Et puis sur la bosse à côté, c'est le pôle Nord. Il y a l'été qui est caché en plein hiver, dans un petit creux de montagne, là, parce que le soleil tape dedans, ça fait une espèce de four. Il n'y a plus de neige, il n'y a pas de vent. Et la chaleur est là, les cailloux l'emmagasinent et la restituent doucement. Mmh. En le mois de janvier, il fait chaud. Peut-être une fleur va sortir, ça arrive. Un lézard aussi. J'ai déjà vu un lézard en plein hiver comme ça. Or, les lézards, c'est quand même des animaux qui ont besoin de chaleur pour sortir. Pour lui, c'est l'été. Alors, en plein juillet, là, vous avez un coup de tabac qui arrive, des nuages noirs qui s'affaissent un petit peu sur les sommets et qui font baisser la température d'un coup. C'est très froid, il y a la neige encore, là. Et à côté de la neige, eh bien, on est dans des conditions quasi hivernales. Si on faisait une photo du coin, là, du bord de la neige et du morceau de terrain qui est à côté, on est en hiver, il n'y a aucun doute. Hein, le matin tôt, ça a gelé, il fait froid, il faut mettre 4 pulls, voilà. Donc, vous voyez, en été, on a un petit coin d'hiver qui est planqué quelque part, et en hiver, on a un petit coin d'été qui nous fait un sourire quelque part aussi.
Alors l'ami Darwin est plutôt parti du côté des Galapagos hein, quand il était jeune. Il n'y est pas resté forcément très très longtemps, mais peu importe, avec son bateau de Beagle. S'il était venu ici, là aussi il se serait rendu compte de l'adaptation et de l'évolution des conditions qui sont là, qui sont à la fois très fortes et fragiles. Quoi.
Bien sûr, il aurait examiné les fleurs, il aurait vu leur couleur, il aurait vu leur taille, il aurait vu leur forme, des coussinets qui sont là, ramasser des fleurs en coussinets pour ramasser l'humidité, la conserver, des fleurs qui sont très colorées pour lutter contre les UV, qui sont très puissants ici. Ouais. Vous avez des coups de soleil, Denis, d'ailleurs.
Ah,
faire attention, vous êtes une fleur, vous aussi.
Mais bien sûr.
Faut faire attention.
Merci, Jacques.
Et les animaux qui, eux, alors, à force d'astuces, d'abord des adaptations physiologiques pour ceux qui vivent tout le temps là. Il y en a un qui vit tout le temps là, hein, c'est le lagopède, mais il y en a d'autres qui sont souvent là, comme le ticodrome, par exemple, comme la nivrole, comme l'accenteur alpin. Donc tout seul, ils vivent là. Alors ils ont développé chacun des petit à petit, avec les générations, des aptitudes physiologiques, physiques, mais aussi des ruses. Des ruses, parce que nous, ce qui a sauvé l'homme, en fait, dans sa trajectoire, c'est qu'il avait le cerveau, ouais. Il a pensé. Il a su passer à travers les goûts.
Il n'était pas spécialisé, mais il s'est adapté.
Il s'est adapté. Alors, il y a les Esquimaux, ils ont fait une adaptation. Il y a les gens qui vivent dans le désert, là. C'est admirable aussi comment ils font pour vivre là. Et dans les forêts tropicales, où il y a plein de moustiques, plein de bêtes féroces. Eh bien non, ils arrivent à survivre. Ben, les animaux, ils ont un petit peu fait pareil. Par exemple, le tétralyre que vous connaissez bien, il creuse des igloos. Il se met dedans, il se laisse ensevelir. Et dans l'igloo, ben, comme les Esquimaux, il fait beaucoup moins froid dehors.
Christian, il y a quand même aussi deux mots qui sont indispensables, c'est à la fois contraste et diversité. Diversité parce qu'on l'a déjà dit, puis qu'on le répète dans cette émission, c'est une des règles de l'équilibre de la vie. Plus un milieu est diversifié, plus donc il a des stratégies pour pouvoir s'adapter, plus il est en équilibre et plus il sera riche.
Bien sûr, d'ailleurs il y a une expression populaire qui dit avoir plus d'une corde à son arc.
Ça
veut bien dire ce que ça veut dire. Et ici, les fleurs, les animaux ont plusieurs cordes à leurs arcs et ont la capacité de réagir à des situations différentes. Et ceux qui sont les plus forts vont passer. Ceux qui sont spécialisés, malheureusement, sont très forts dans leur domaine. Mais si leur domaine bouge un tout petit peu, ils sont tout nus. Ils sont complètement démunis et ils disparaissent.
Ils n'ont pas de solution de rechange. Alors là, on est en train de marcher encore sur un petit névé qui n'a pas dit son dernier mot, hein, voilà, et qui va donc renforcer le torrent qui est un petit peu plus bas. Et alors, ces fleurs extraordinaires.
Les anémones.
Les anémones.
Vous avez vu, c'est beau, hein. Ouais, je ne sais pas si on trouve ailleurs des choses aussi belles, aussi contrastées. Donc, voyez la montagne, c'est dur, ça nous gagne, bien sûr, mais c'est dur, c'est âpre, et en même temps, c'est beau. Je sais pas ce qui. Il y a peut-être une condition à la beauté. Il faut souffrir pour être belle. Peut-être qu'on peut l'appliquer ici. Et que la montagne souffre, mais qu'elle est belle. Ouais. Et nous, on en profite. On profite des bons moments de la montagne. Et je crois qu'en retour, on lui doit quelque chose. On lui doit le respect. Et il y a du boulot.
Et jusqu'au bout, c'est la vie qui gagne. C'est-à-dire que là, on est face à des pierriers. Mais dès qu'il y a un peu de minéraux, un petit peu de terre, et puis bien sûr de la flotte et du soleil, ça y est, ça se couvre de vert. On a dépassé les alpages, hein, faut le dire. Là,
mais... Ah oui, la vie est là, hein, de toute façon, et l'envie, elle se bagarre tout le temps, et elle trouve des solutions pour gagner la partie, et tout cela est très dynamique, ça bouge, ça change tout le temps, la montagne change tout le temps, ça fait partie de sa beauté, il y a l'éclairage qui va changer, la saison.
On vous a offert un petit peu d'eau de torrent pour ouvrir ce reportage. Et ben, on va vous en offrir aussi pour le terminer. À très bientôt, Christian.
Waouh, je pense que cette première petite balade vous a fait du bien. Avant de compter les vautours, Diana Ross sur France Inter. n'y a pas de montagne assez haute. Ah bah, c'était Diana Ross sur France Inter qui nous le disait. On lève les yeux au ciel, c'est bon pour les cervicales, la vue, le moral et aussi pour les oiseaux qui ne savent pas qu'en plus de leur simple raison d'être, ils sont un maillon du vivant, de la terre et du ciel et qu'ils embellissent nos cerveaux. Là, les petits, les passereaux, les rapaces, les gros. Tenez, allez voir sur le site de CO2 la photo de Cathy Ribaud, excellente naturaliste photographe qui, comme Christian Couloumi, fait partie de l'association Envergure Alpine, dont Christian est le président. Et Envergure Alpine, avec d'autres associations comme la LPO, apporte sa connaissance, ses données sur les rapaces. Nous sommes toujours dans ce deuxième volet dans les Hautes-Alpes, sur la commune de Réalon, dans le vallon des Gourniers, à 1500 mètres d'altitude. C'était il y a 2 ans, fin août, et aujourd'hui, nous comptons les vautours. Comment résumer le vautour ?
C'est un transhumant. On pourrait presque dire, en s'amusant, qu'ils viennent chez nous avec les troupeaux quand ils sont perchés sur le camion, pratiquement. Et puis, ils descendent quand le camion redescend, à peu de choses près. Donc, au mois de mai, là, il y a des précurseurs, des pionniers, des aventuriers qui viennent voir un peu ce qui se passe. Alors, je ne sais pas ce qu'il raconte en rentrant dans les colonies d'où il vient, mais si c'est bon, on voit arriver les autres. Et c'est bon à peu près au 15 juin, là, quand les moutons sont montés.
Ouais. Et donc, ça va jusqu'à la Saint-Luc, quoi, jusqu'au mois d'octobre.
Ici, traditionnellement, pour les brebis, ouais, les troupeaux descendent pour la Saint-Luc, c'est une foire importante à Guillastre. Ouais. Et les troupeaux redescendent à ce moment-là. Quoi. On est à la mi-octobre, 20 octobre. Il y a pu y avoir de la neige déjà. Mais la neige ne les empêche pas de rester au vautour. Tant qu'il y a à manger, ils restent là. Ouais. Et puis, les jours raccourcissent, le froid s'installe, la neige s'installe aussi en altitude. Et les vautours vont s'en aller. On devra les attendre pendant quelques mois.
Alors, évidemment qu'ils embellissent ces montagnes, mais au-delà de ça, bah, vous avez des économistes qui ont évalué quand même aussi le travail d'écarisseur assez incroyable qu'effectuent ces vautours en montagne.
On est en train de faire un comptage aujourd'hui avec vous, d'ailleurs, Denis. Sur les précédents comptages, c'était 1500 individus sur l'ensemble du sud-est de la France, d'accord, du lac Léman à la Méditerranée et du Rhône à l'Italie. Donc ça fait des effectifs importants, mais il y a des centaines de milliers de moutons de tête de bétail. En général, c'est 2-3% de mortalité dans le bétail naturel. Et ils font ce job un peu partout, ils sont très forts pour le trouver. Ils consomment les cadavres, ce qui évite de polluer l'eau, de polluer les sols. Et plus encore, ils ont la faculté, les vautours, des sucs gastriques très puissants, de neutraliser les germes, microbes et autres maladies. Donc ils font un vrai boulot qui d'ailleurs va beaucoup manquer dans certains pays du monde. Parce qu'aujourd'hui, les vautours d'Afrique, d'Inde notamment, sont affectés par un problème énorme. Le diclofénac, c'est une molécule qui est utilisée de manière vétérinaire. Et les vautours qui mangent un animal qui a été traité par le diclofénac
s'empoisonnent.
Et c'est par dizaines de milliers que ces oiseaux meurent. Et dans ces pays, c'est pas seulement une catastrophe pour la biodiversité, mais c'est aussi une catastrophe humaine, parce que dans ces pays-là, il n'y a pas la possibilité que nous avons ici de traiter les maladies, de nettoyer tout ça. Donc ça sera un problème. Les vautours vont manquer à la planète aussi.
Alors nous sommes pas très loin donc de ce dortoir, et pour que ça fonctionne, en fait, ce comptage a lieu sur une quarantaine de points aujourd'hui dans cette partie des Alpes.
Oui, dans toutes les Alpes, en fait, depuis le Mercantour, les Alpes d'Azur, jusqu'à la Haute-Savoie, au nord même du Mont-Blanc. Et nos amis suisses et italiens, cette année, se raccrochent à notre dispositif, parce que les vautours étendent leur prospection petit à petit vers l'est. Ben, on saura ce soir s'il y a des vautours qui se sont installés pour l'été ou pour quelques jours en Suisse ou en Italie.
Parce que donc chacun est à son poste, là, entre 16h on va dire et 20h à peu près, pour voir combien de vautours donc se raccrochent à ce dortoir. Alors, il y a ceux qui repartent, donc justement c'est intéressant en fin d'après-midi, en début de soirée, de voir véritablement combien ils sont.
C'est ça, comme ce sont des oiseaux très mobiles, très opportunistes, leurs déplacements sont conditionnés par l'alimentation, donc ils prospectent un peu partout. Et le moment où on peut les compter sans avoir de risque de faire des doubles comptages, c'est quand ils se rassemblent le soir pour dormir.
Là, en fait, s'ils se sont posés ici, c'est bien sûr parce qu'ils sont à l'abri, mais aussi parce qu'ils vont pouvoir redécoller facilement demain.
Ils se sont posés, en effet, là, c'est 2007, hein, l'altitude de leur dortoir là. Oui. Donc demain, quand le soleil va se lever et qu'il va réchauffer l'air, comme on le disait, ils vont pouvoir s'en aller quand le vent va se lever. relever aussi, et ils ont du potentiel, comme dirait un pilote de planeur. C'est-à-dire que de là-haut, même s'il n'y a pas de vent, 2007, avant qu'ils soient tombés dans la vallée, il y a de la marge. Donc ils se mettent très haut comme ça, ils ont la possibilité de se lancer dans le vide, il y a du vide devant eux. Ouais.
Alors ces vautours donc, sont revenus principalement par les gorges de la Jonde, d'abord sur le Cosmégen, donc dans le département très beau de la Lozère, donc où ils ont été réintroduits, il y a eu tout un travail qui a été effectué. Oui. Et puis un autre oiseau emblématique que vous adorez, vous aussi, en tant que président d'Envergure Alpine, c'est quand même le gypaète barbu, hein, oui, le casseur d'os.
Le casseur d'os, ben, c'est bien d'en parler, Denis, parce que cette année, c'est un double anniversaire. C'est l'anniversaire du premier lâché dans les Alpes françaises, en 1987.
Ah ouais.
Et c'est aussi le 20e anniversaire, donc c'était un 30e anniversaire, et là le 20e anniversaire de la première naissance dans les Alpes.
Alors lorsque l'on parle de ces grands voiliers, bon, faut quand même imaginer qu'on dépasse largement les 2 mètres, hein, d'envergure.
Ah oui, 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 pour le vautour fauve, c'est environ 2,50 m, donc c'est un très gros oiseau qui peut peser plus de 10 kg, hein, entre 7 et 11 kg, les statistiques disent ça. Et pour le gypaète, il est beaucoup plus léger, il est plus grand, son envergure est plus grande, mais 5-7 kg, c'est un logier qui vole très très bien, qui plane au ras des pentes. Beaucoup d'élégance, le gypaète.
On va peut-être casser quand même quelques idées reçues, parce que de temps en temps, on voit arriver sans véritable vérification, eh ben, un vautour a attaqué ma vache. Voilà, alors qu'est-ce que, où on en est aujourd'hui?
Il y a beaucoup de fantasmes autour de tout ça. La réalité, elle est un peu différente de ce qu'on en raconte. Pour nous, qui sommes des gens de terrain, les pieds par terre, si on regarde dans l'air, on essaie de voir ce qui est vraiment et pas ce qui pourrait être. Les vautours sont pas des prédateurs, ils sont pas équipés pour ça. Mais il est possible que dans certaines situations, un animal mourant, lors d'un agnelage, de la naissance d'un accouchement, en gros, il est possible que les vautours s'approchent et commencent à picorer. Et il y a le placenta. Alors, le placenta, pour les animaux sauvages carnivores, c'est quelque chose de formidable. Donc il est possible que, pré-mortem, mais vraiment dans un animal qui va mourir, c'est arrivé très rarement. Sinon, le stimulus pour un charognard, c'est l'immobilité. D'ailleurs, les vautours s'approchent et piquent un petit peu la peau, comme ça, les fesses, pour voir s'il est bien mort. Un peu comme faisaient les croque-morts en mordant les orteils. Voilà. Alors qu'un aigle, qui lui est un vrai prédateur, qui est équipé pour ça avec des serres puissantes, un vol très fort, eh bien, c'est le mouvement qui déclenche son envie de chasser. C'est comme un chien, si vous courez devant un chien, il vous court après.
Et alors, racontez-nous donc ce lieu, donc cette vallée de Réalon et donc ce vallon des Gourniers que vous connaissez bien.
Ah oui, bah j'ai commencé ma carrière ici en fait, hein, ce hameau des Gourniers. C'est une montagne dite à vache, mais dont les pentes peuvent être parfois surprenantes, et on s'est fait peur là à travers, qui était habitée il y a une quarantaine d'années par des gens qui vivaient toute l'année, qui avaient des vaches ici. Et on a vu une transition incroyable en peu de temps, en une génération et demie. Vous savez, il y avait des mulets avec des luges à foin, et les gars là du village allaient chercher le foin un peu plus loin là-haut. Et ils redescendaient dans les luges à foin avec leurs mulets. Et bien aujourd'hui, il n'y a plus rien. On a vu se tourner une page de l'histoire de la montagne en peu de temps finalement. 40 ans, c'est pas beaucoup. Et c'est assez émouvant de revenir ici, de voir tout ça. Et de voir que petit à petit, les cultures un peu plus loin sont devenues des pâturages et que la forêt va sans doute gagner un jour un peu plus haut. On a abandonné un peu la montagne parce que ces gens sont partis. Il y a toujours un peu d'agriculture ici. Hein. Il y a des vaches, il y a des moutons. Il y a des troupeaux l'été, mais c'est vrai que, comme à pas mal d'endroits, il y a un abandon peut-être de la montagne comme c'était autrefois. Quoi.
La passion des oiseaux, elle vient d'où pour ces rapaces en particulier?
Mais, je ne sais pas si on peut expliquer les passions. Peut-être, voilà. Peut-être qu'au fond de soi, on a chacun quelque chose de prêt pour une rencontre. Ça peut être pour les gens, l'amitié, l'amour, ça peut être pour des paysages. On se sent bien à tel endroit. Il y en a, ça sera la mer, d'autres la montagne, d'autres, ça sera l'Aubrac. Et puis, pour les oiseaux, la nature, c'est un petit peu pareil. Moi, j'ai flashé pour les oiseaux. Voilà. Je peux pas l'expliquer parce que c'est une passion. Une passion s'explique pas. C'est comme un coup de foudre. On n'explique pas pourquoi.
C'est ça.
Mireille, de Christian. Mireille.
Oui, j'écoute.
Vous avez vu arriver des choses depuis?
Non, ça n'a pas bougé. Hein.
D'accord. Écoute, ce que je te propose, c'est que vous commenciez à descendre. Et puis nous, on va regarder s'il arrive des trucs d'ici. Donc on va fixer le dortoir avec les longues-vues, là.
Ouais, ok. Bon, on va faire la dernière, là, de 19h30. On était à 37 à tout à l'heure. Et puis on descend, ok.
À tout à l'heure, Mireille. À tout à l'heure. On fait comme ça.
Alors Christian, avant de se quitter, c'est vrai que c'est très variable parce que vous avez donc déjà comptabilisé jusqu'à quoi, 50, 60 vos tours
Là, ici, 80.
80,
fois 80 ouais.
Donc ça dépend de quoi alors?
Ils ont dû trouver quelque chose ailleurs.
Ah,
on verra s'il y en a plus ailleurs. C'est les vases communicants dans toutes les Alpes avec les vautours. Là, il y en a 35, c'est déjà pas mal, hein, dans un dortoir sur lequel ils sont très fidèles.
Ils sont un peu tassés, d'ailleurs, les uns ne sont pas loin des autres, les uns des autres.
Hein. Bah, les vautours, c'est extrêmement grégaire. J'ai dans des paysages, c'est la Mongolie presque. Hein. C'est immense, ils se posent les uns à côté des autres, ils se bousculent.
Voilà. Là, je vois ça à la jumelle, là, ils sont... Oui, oui, c'est bon. Puis ils vont rester là tranquillement, ils vont écouter France Inter, puis vous aussi, donc ça va être bien. Merci Christian Couloumi.
Merci à vous Denis, à bientôt bien. Alors.
Et Christian a écrit « Rapace entre ciel et terre », c'est aux éditions Glénat, c'est vraiment une somme, c'est son cinquième ouvrage. Et puis je vous renvoie aussi à cette excellente revue qui s'appelle « Alpes Magazine ». Dans quelques instants, notre troisième volet montagne sera consacré au glacier, le glacier blanc.
Si tu voulais me faire peur l'amour, ça s'est fait.
Que comme le chantait Jean-Louis Murat, ça, c'est fait.
La terre va mal. La terre souffre. J'ai mal à ma terre.
CO2, mon amour.
Mais des hommes ont décidé de faire la différence sur cette planète.
Denis Chessou.
La nature s'ouvre aux hommes uniquement si les hommes s'ouvrent à la nature. Gordy, c'est moi. Ben non, c'est moi.
Sur France Inter.
Troisième marche de nos aventures en montagne apprenante ou alpine, un petit glacier. Est-ce que ça vous dirait ça? Et puis, allez, un troisième bonjour.
pas loin, je le rejoins. Bonjour Christian Coloumi.
Bonjour Denis.
Notre homme des Hautes-Alpes. Alors aujourd'hui, Christian, homme de la montagne, rendez-vous sur le glacier blanc où nous sommes, c'est-à-dire nous sommes dans ce très beau massif des Écrins. On a dépassé le pré de Madame Carl, hein, qui est en contrebas. On est à quelle altitude ?
Oh, 2250 à peu près.
2250. On va prendre le pouls de ce glacier blanc. Mais auparavant, donc cette barre des Écrins, qu'est-ce qu'on a sous les yeux ?
Alors la barre, il faudra avancer encore un petit peu sur le glacier, Denis, ouais, pour la voir, parce qu'elle est cachée. On l'a vu que très tard, hein, c'était un sommet caché. On croyait que le Pelvoux était le sommet du massif.
Ouais.
En fait, les Écrins, cette montagne cachée, Écrins, hein, ça veut un peu tout dire. Alors, au-dessus de nous, là, bientôt, on pourrait l'apercevoir. Il y a la montagne des Agneaux, bien sûr. Ensuite, Neige Cordier, Rochefort-Yeau.
Ouais.
Enfin, on arrive aux Écrins, parce qu'on a passé la brèche, là, le col des Écrins, qui redescend de l'autre côté sur la Bérarde.
D'accord. Et alors, à une autre époque, quand même, les Anglais se sont sacrément intéressés à ces Écrins. Hein. Si on pense à Whymper, par exemple.
Ah, au jeune Whymper, qui a une audace formidable, accompagné, c'est vrai, par les gens des vallées, en général. Hein. Mais ils nous ont soufflé pas mal de sommets.
Ah oui.
Trop fort.
Oui, cap sur le front du glacier blanc. Il y a une dizaine d'années, il nous fallait 2 heures pour l'atteindre. Aujourd'hui, avec le réchauffement, le front a reculé, c'est plus de 2h30. Alors nous sommes sur ce chemin domanial, propriété de l'État et fragilité des milieux, disions-nous.
Alors Christian Coloumi, vous êtes véritablement, vous, une archive, on va dire, climatique. Hein, on est avec vous, pas géologique, hein, j'ai bien dit climatique. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de 40 ans que vous sévissez dans ce lieu, dans ces Hautes-Alpes. Et donc, ce glacier blanc, c'est aussi un indicateur.
C'est un indicateur et au cours d'une carrière comme la mienne, j'ai pu percevoir la respiration de ce glacier.
Ouais.
Des inspirations au moment où il a gonflé, où il s'est accru, jusque dans les années 80 à peu près. Et puis l'expiration que l'on constate actuellement avec un retrait, une diminution de volume qui est même très importante et que les gardes du parc nous mesurons régulièrement.
Oui, tout à fait. Et alors donc là on est face à une sortie d'eau, hein, c'est-à-dire que ça va nourrir les torrents un petit peu en contrebas, puis après donc la Durance, avec une eau qui est assez turquoise.
Oui, elle est chargée de particules, parce que c'est du rocher dessous, il n'y a pratiquement pas de plantes. Le glacier rabote un petit peu tout ça. Et c'est plein de particules en suspension qu'on ne voit pas, qui donnent ce beau bleu turquoise,
ouais, ça.
Comme ça.
Ouais.
Et sous nos yeux, c'est le glacier qui s'en va, qui remontera peut-être par la voie des airs, par les nuages, et qui viendra de nouveau alimenter la partie supérieure du glacier, là où se constitue le stock, les entrées, les recettes, pour être fondu peu à peu l'été. Et là, ce sont les dépenses. Et les dépenses, en ce moment, avec un été comme on l'a eu, elles sont très importantes, elles sont irraisonnables, déraisonnables, les dépenses.
Ouais.
Et le glacier perdra sans doute en valeur en eau, puisque c'est comme ça qu'on l'exprime, plutôt qu'en hauteur, beaucoup cette année. Le bilan sera déficitaire,
c'est ça.
Et largement.
Oui, ce qui veut dire que ce glacier blanc, il passe devant la commission de surendettement, on lui explique que vous ne pouvez pas dépenser autant d'eau que vous en recevez, hein, c'est ça.
C'est exactement ça. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ce qui compte le plus dans ce bilan dont on vient de parler, entrée-dépenses, c'est pas forcément les chutes de neige de l'hiver.
Ah, racontez.
Non, c'est plutôt la chaleur de l'été. C'est pas les économies, en fait. Les économies, ouais, elles sont chiches. Mais les dépenses, elles, sont exponentielles. Elles sont, comme je le disais, peut-être déraisonnables.
Ouais.
Et on le voit ici, sur ce glacier, avec cette eau. Ça fait presque un peu de peine, parce que c'est la glace de là-haut. C'est ce magnifique glacier qui est en train de partir, là, qui s'en va. Et vous savez, dans 50 ans, 40 ans, disons, encore autant que ce que j'ai vécu auprès de ces montagnes, je ne sais pas où sera le glacier. Il aura peut-être reculé d'encore 2-3 km, qui sait. En tout cas, c'est ce qu'il a fait depuis les années 80.
Donc là, on est vraiment dans une accélération du phénomène, en tout cas une période forte.
Absolument. Et comme il est plus petit, il s'est réduit, même si ça reste un grand glacier, sa capacité de résistance, elle est diminuée. Et puis les rochers autour prennent le soleil.
Oui.
Et restituent la nuit la chaleur qu'ils ont accumulée le jour. Et la fonte continue la nuit, même s'il peut faire un peu frais. C'est pas toujours négatif, mais dans des températures même positives, 3-4 degrés la nuit, oui, la fonte, elle est quand même mesurée.
Donc les cailloux font radiateur, relâchent leur énergie qu'ils ont accumulée dans la journée, et hop, c'est encore double peine pour le glacier blanc.
Exactement, ça pourrait donner des idées d'ailleurs,
c'est
vous
ça.
Savez.
C'est ça.
bouge. Hop là. Et on atterrit sur... Plouf. Presque de la glace. Alors autour de nous, on ne va pas dire qu'on voit beaucoup d'arbres, parce que ce n'est pas le cas. Hein. On est quand même déjà suffisamment haut, donc le minéral a gagné. Les mélèzes sont bien plus bas. Quoi.
Ah oui, plus bas maintenant. Puis surtout le contexte. Alors l'altitude, on pourrait trouver des mélèzes à 2250 mètres, bien entendu. Mais le contexte ici est beaucoup plus raide, plus dur. Et puis minéral, c'est très minéral. Tout ce qui est autour de nous est minéral. L'eau sous la forme de glace, et puis la pierre, ici, comme vous voyez, près de nous d'ailleurs, ces espèces de dos d'éléphants, un petit peu rayés, comme si on les avait griffés. Ben, c'est le glacier qui les a griffés quand il passait encore là.
Ouais.
Et il est parti, le glacier, et il nous a laissé ses traces, ses témoignages de son passage. Et en même temps, derrière son départ, eh bien, il y a des lichens qui ont commencé à s'installer. Des lichens sur des rochers qui sont ici siliceux, des lichens un peu verdâtres là, que l'on reconnaît bien aux abords des glaciers souvent, oui.
Alors ce que l'on voit aussi là, ce sont ces fameuses moraines. C'est le glacier, donc c'est assez arrondi, c'est le glacier qui a joué, qui a transporté, qui était le transporteur de ces moraines.
Oui, le glacier c'est un énorme rabot.
Ouais.
Et il fait des copeaux et de la poussière et de la limaille. Et cette limaille, elle est transportée sous forme de pierre et de farine des glaciers. Et elle est transportée sur le dessus du glacier, elle est poussée devant et elle est évacuée sur les côtés. Donc on retrouve comme ça des traces du passage, des témoignages qui nous permettent de dire que, eh bien, il y a 80 ans, le glacier était venu jusque-là parce qu'il y a un dépôt de moraine. Ça se présente sous la forme d'un talus avec deux pentes. Et le glacier arrivait jusque-là. Le front du glacier est venu déposer là des cailloux qu'on roulait à son front. La poussière qui était évacuée, et on trouve tout le long. Alors, au front du glacier, c'est-à-dire tout au bout de sa langue, et sur les côtés également, des moraines. Et puis, sur le glacier lui-même, parfois, c'est le cas du glacier noir, tout près d'ici.
Oui, de l'autre côté, oui.
Le glacier est recouvert de pierre. Une épaisseur modeste, 15-20 cm de pierre.
D'où le nom glacier noir.
D'où le nom glacier noir, sur toute sa surface. Des glaciers noirs, il y en a un petit peu partout dans les Alpes.
Ah, ce qu'il est beau, le débit de l'air, ah, ce qu'il est beau, le débit du glacier. Oui, bah, enfin, pas trop quand même. Hein. Alors, donc, ces glaciers sont véritablement des indicateurs du changement climatique. Hein, ça, c'est pas nouveau. C'est valable dans toutes les Alpes, donc, que ce soit donc, un peu plus loin, et quelques vallées plus loin à Chamonix. Le glacier de Sarenne est extrêmement ausculté. Là, c'est au-dessus de l'Alpe d'Huez.
Du lac des Kirlis, oui.
Et on assiste quand même à une accélération, quand même, on le redit, quand même, de ce phénomène. Quoi, de...
Oui, et une accélération. Et pour l'instant, les plus faibles, ceux qui vont payer le prix de ce réchauffement, au fond, ce sont les petits glaciers, parce qu'eux, ils ne vont pas se réduire, ils vont disparaître. Et il y a pas mal de petits glaciers sur le massif là, mais je pense ailleurs aussi, qui ont disparu. Les névés et les neiges d'antan, mais où sont les neiges d'antan? Les neiges d'antan, elles ont beaucoup disparu également, et les alpinistes le savent bien, parce que la montagne, autrefois, souvenez ce mot de faire de la ramasse. Faire de la ramasse, c'est glisser sur les talons avec un bâton, et alors là, les descentes, c'était facile. Jusqu'en août, on arrive à faire de la ramasse. Aujourd'hui, bah, c'est des cailloux branlants, c'est des éboulis, c'est même dangereux. Et il y a certaines voies d'escalade classiques, des pentes de neige, eh ben, qui sont plus du tout en neige et qui ont disparu. Elles sont rayées de la carte.
Et on a aussi donc des voies maintenant d'alpinisme qui deviennent dangereuses. On le voit d'ailleurs aussi du côté des Drues, des Grandes Jorasses. C'est-à-dire que la physionomie même des roches est en train de changer.
Alors ça, je ne sais pas s'il faut le rattacher directement à la température, mais probablement, puisque pour les Drues, les géologues et les guides le savent, le réchauffement a sans doute fondu à l'intérieur de la glace qui était prisonnière, qui faisait une espèce de ciment.
C'était le ciment.
Et le pilier, le célèbre pilier sud-ouest, le pilier dont Walter Bonetti avait fait la première en solitaire, bah, il s'est effondré. Ouais. Il s'est complètement effondré. J'ai des amis qui ont gravi cette voie mythique, et la voie n'existe plus aujourd'hui. Hein. Et je crois qu'ils ont eu rétrospectivement une sacrée peur quand même.
Bon, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend des photos et puis on revient dans 40 ans On fait quoi là?
Alors dans 40 ans, mon cher Denis, on aura une canne de chaque côté chacun.
Ça, c'est sûr.
Peut-être déambulateur aussi. On nous appellera déambulateur.
Déambulateur, c'est formidable. Voilà. Bon, cher Christian, allez, on se souhaite une chaleur humaine intacte et qui peut être même en haut, ça ne nous dérange pas, mais en tout cas qu'elle n'affecte pas ce glacier blanc.
Non, l'altitude rapproche les gens, parce qu'on est face à soi-même. Donc c'est ça, c'est bien. La chaleur humaine est là.
Et en redescendant, bah, vous croiserez la Durance. Ça tombe bien, chez Glénat, ils viennent de sortir la revue L'Alpe consacrée à la Durance. Comment cette rivière qui prend sa source au Mont-Genèvre a façonné les paysages, l'économie, l'agriculture? Réponse dans ce numéro de L'Alpe qui est tout neuf. Fin de nos carnets nature CO2 Mon Amour, les archives et les podcasts sur franceinter.fr, le Twitter Denis Chessou, tout attaché, avec Jérôme Boulet, mon réalisateur à distance, et Camille Blanès. Nous vous souhaitons un excellent samedi. Et demain, après la montagne, la mer et les calanques. D'ici là, portez-vous bien.